Voyage au bout du monde, une évasion exotique animée par Isabelle Rupin.
Il va nous falloir nous couvrir bien chaudement pour notre aventure d'aujourd'hui, puisque là où nous emmène Solène Desbois, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 89 degrés, et peut-être même encore plus, hein, avec des vents à 300 km/h, ce qui fait en ressenti, ouf, on n'ose même pas y penser. Solène Desbois, bonjour.
Bonjour.
Alors vous étiez en Mayenne pour présenter le film Antarctique aux confins du monde que vous avez réalisé avec Luc Desnoyers pour les conférences Altaïr. Et avant de poser nos pas sur ce continent blanc, vous êtes mayonnaise, c'est assez rare qu'on ait des conférencières pour Altaïr qui soient mayonnaises.
Oui, c'est pour ça que c'était une séance un petit peu particulière aujourd'hui. Et en effet, je suis mayonnaise, j'ai vécu à Laval jusqu'à mon lycée.
Et alors comment est-ce que vous en êtes venue à réaliser des films ?
Alors, après mon lycée justement, j'ai fait des études d'information communication et tout de suite, le média, la vidéo, c'est tout de suite ce qui m'a attirée pour voyager et je suis autant passionnée de voyage que de vidéo, donc le challenge, ça a été de mêler les deux, donc j'ai fait quelques années à Paris et après, le voyage a repris le dessus, donc après 3 années plus orientées professionnelles vidéo, après j'ai fait 1 an et demi de voyage sac à dos et à mon retour, je suis embauchée sur une compagnie de croisière en tant que vidéaste pour réaliser les films à bord et c'est comme ça qu'au final j'arrive à mêler voyage et vidéo et pendant 5 ans je vais voyager un peu aux quatre coins du monde et je découvre que cette compagnie va en région polaire, donc en Arctique, en Antarctique. Et c'est comme ça, donc un peu par le hasard, que je me retrouve à embarquer à Ushuaïa en 2016. C'était mon premier voyage en Antarctique.
Et c'est votre premier film d'aventure ?
Oui, du coup, c'est vraiment le premier film. Je réalisais des films à bord pour les passagers, mais il n'y avait pas ce côté journalistique, on va dire. Enfin, en tout cas, là, c'est mon premier film de voyage où il y a des interviews, des scientifiques, où je raconte tout ce que j'ai appris en Antarctique. Et c'est le premier film aussi en mode conférence pour Altaïr.
Voilà, alors, vous allez essayer de résumer en fait tout ce que vous avez appris aussi sur l'Antarctique. Alors déjà, pour préciser, l'Antarctique, c'est le pôle sud, hein.
Oui, une des premières choses à savoir, c'est que c'est deux régions qu'on peut confondre, Arctique-Antarctique. Il y a plein de différences, donc certes c'est des régions polaires, certes il fait froid, mais il y a quand même pas mal de similitudes et de différences aussi. Et donc l'Antarctique, en effet, pôle sud.
Et alors donc vous allez nous emmener sur la trace finalement des grands explorateurs. Je crois que c'est en 1820 qu'il y a eu le premier pas d'un être humain en Antarctique. Enfin tant qu'on n'a pas découvert d'autres traces d'ailleurs, on peut tout imaginer. Mais
c'est ça, l'Antarctique a été découvert assez tard. On imaginait qu'il y avait une Terre tout au sud de la planète, mais on a mis du temps à l'approcher. C'est des navigations extrêmement difficiles dans ces régions-là. Donc James Cook approche le continent au XVIIIe siècle, mais c'est vraiment qu'en 1820, c'était beaucoup d'hommes à l'époque, que le premier homme pose le pied sur le continent. Et après, on va mettre beaucoup de temps à le découvrir, à monter des expéditions pour aller le cartographier, aller découvrir tout ce qui s'y passe. Et c'est toute une histoire de l'exploration polaire, moi, que j'ai vraiment redécouvert en étant en Antarctique. Parce que bah, ça a été le dernier continent qu'on a découvert. Et après, bah, sur les cartes, il y a des noms de baies, de montagnes qui rendent hommage aux personnes et aux explorateurs qui y ont été. Donc nous en France, ça a vraiment été Jean-Baptiste Charcot qui a fait 2 hivernages en Antarctique et qui a nommé des baies en fonction du nom de son père, donc était son nom aussi, donc Charcot, ça, forcément ça fait appel à lui aussi. La Salpêtrière en hommage à son père qui était médecin et en référence à l'hôpital à Paris. Il va avoir nommé en fonction de personnes qui ont financé son expédition. Il y a le Mont Français, il y a toutes ces choses-là qu'on retrouve sur les cartes de l'Antarctique et bah forcément ça attise la curiosité de voir tous ces noms et dès qu'on creuse, et bah on se rend compte que derrière il y a une histoire, il y a un personnage et il y a toutes ces personnes qui ont vécu bah, des histoires assez extraordinaires, quoi.
Alors, ce premier homme en 1820, c'était le Norvégien Roald Amundsen qu'on associe beaucoup à l'Antarctique, c'était lui?
Alors en 1820, il y a les premiers en fait Fauquier-Baleinier parce que ça a été une des premières raisons pour lesquelles on a été en Antarctique. Ça a été aussi pour la chasse à la baleine, à une époque où on chauffait, on utilisait l'huile de baleine pour ramener dans nos pays occidentaux pour les industries, pour l'éclairage, etc.
Avant le pétrole.
Avant le pétrole. Donc 1820, c'est le russe Bellingshausen qui va mettre le premier le pied sur le continent. Et après, il y a plein d'explorateurs qui vont vouloir aller conquérir le continent. Et Roald Amundsen, qui est aussi connu pour avoir été le premier à traverser, à trouver le passage du Nord-Ouest, qui est un Norvégien, donc lui habitué à l'Arctique, habitué aux chiens de traîneau, habitué au ski, à toutes ces régions froides. Il a aussi vécu avec les Inuits, parce que ça a été un autre gros challenge de l'exploration polaire, ça a été de trouver ce passage du Nord-Ouest. Et Amundsen, lui, il a réussi justement en vivant avec les Inuits, en apprenant leurs techniques de chasse, de survie, le fait de conduire aussi les chiens de traîneau, etc. Et donc, c'est quand même un lien avec...
Pardon, oui, parce que les Inuits, on est bien au pôle Nord.
Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc,
vous allez nous perdre.
Oui, c'est ça. Donc Amundsen, lui, il est norvégien, donc il a bien grandi plus dans les régions arctiques, mais ça lui a servi pour la conquête du pôle Sud. Donc une bataille qui s'est menée entre le Britannique Scott et Amundsen, le Norvégien. Et au final, le Norvégien l'a emporté. Ils étaient moins nombreux et justement, ils avaient tous une meilleure connaissance. Enfin, en tout cas, le fait d'y aller en traîneau avec leurs chiens, y aller en ski, ça a été un avantage pour eux face aux Britanniques qui étaient avec des poneys, des engins motorisés. Donc Amundsen, lui, il est connu en Antarctique pour vraiment avoir atteint le pôle Sud. Et là, on est en 1911.
Bon, et on revient alors sur les Français. Il y a eu Dumont d'Urville aussi, qui est un petit peu connu. On va peut-être pas s'attarder dessus, mais sur Jean-Baptiste Charcot, ce qui m'amusait dans votre film Solène des Bois, c'est que finalement, il a inventé le financement participatif.
Oui, j'aime bien cette anecdote. En effet, il a eu tellement de mal à lever des fonds qu'il a fait ce premier financement participatif. Donc, il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, lui, son moyen, ça a été de déposer une petite annonce dans le journal Le Matin. Et il a eu, au final, pas mal de contributions. Ça a financé à hauteur d'un tiers de son expédition. Ça lui a permis quand même de la lancer, de la concrétiser. Sinon, c'était beaucoup sur ses réserves personnelles. Et puis quand même, le soutien de différents organismes français. Et bref, il arrive à monter cette expédition. Et la première, il part en 1904 en Antarctique.
Et il a appelé son bateau Le Français, justement, pour remercier ses contributeurs. Pour sa deuxième expédition, c'était un petit peu plus facile. Et là, on peut parler du nom du bateau aussi, parce qu'il est connu.
C'est ça. Donc, le bateau connu de Charcot, c'est le Pourquoi Pas. Et en effet, il aurait pu partir avec le Pourquoi Pas en 1904, mais il est parti avec Le Français en hommage et en remerciement. Et il reprend le nom de Pourquoi Pas 4 pour son hivernage de 1908.
Alors, on va s'attarder un tout petit peu sur lui, parce que j'ai bien aimé aussi découvrir finalement dans votre film un peu cette personnalité qui était très attentive au management, finalement, on dirait aujourd'hui. Hein. Il était très moderne.
C'est ça aussi qui est commun dans l'exploration polaire. Tous ceux qui ont vécu et qui ont vécu des moments hyper difficiles de survie, sachant que c'était des équipages, des groupes. Donc il y a vraiment cette cohésion humaine qui ressort de chaque histoire en Antarctique. Donc c'est vrai que Charcot, on dit que c'était un meneur d'hommes extraordinaire. On donne les mêmes qualités à Shackleton, donc à un autre explorateur polaire qui a eu aussi une aventure extraordinaire. Et Charcot, c'est vraiment ça aussi, quoi. C'est comment maintenir le moral des troupes quand on passe plus d'un an dans des conditions extrêmement difficiles, donc avec le confort qu'il n'y a pas du tout aujourd'hui, donc à bord de bateaux où il fait froid, avec la nuit polaire, enfin avec toutes les difficultés psychologiques qu'un hivernage et que les hommes doivent affronter pendant cet hivernage. Donc là-dessus, le moral des troupes, c'est hyper important. Donc il avait pas mal de techniques, de sa personnalité. Et après, on sent l'anticipation pour justement faire face à tout ça. En emmenant, c'était aussi important d'avoir de la nourriture, mais d'avoir aussi des livres, des instruments de musique, plein de choses pour se divertir, et le sport, la connaissance. Il y avait plein de moyens pour garder le moral, mais en effet, c'était vraiment hyper important. Et pour encore faire un lien avec Shackleton et son aventure dans les glaces. Pareil, il y a un moment où il va se retrouver... Le bateau va couler et donc il faut prendre le minimum nécessaire pour survivre. Et donc ils prennent leurs vivres, mais malgré tout, Shackleton autorise ses hommes à prendre un journal de bord, à prendre quelques photos et à prendre un instrument de musique. Donc c'est à ce moment-là où on se rend compte que même quand on frôle la mort et qu'on doit prendre, chacun était autorisé, je sais plus, mais même s'il devait prendre qu'un kilo, et ben même dans ce kilo-là, il y avait quand même une part qui était dédiée au bien-être psychique des hommes, quoi, et au moral des troupes. Mm.
Bon, donc c'était une parenthèse sur les hommes, mais qui n'était pas inintéressante. On va revenir donc maintenant vraiment à l'Antarctique, parce qu'on a dit qu'il y faisait très froid. C'est quand même effectivement la règle, même s'il y a des écarts de température et qu'en été, ça peut être un petit peu moins extrême que les moins 89.
C'est... Encore une fois, entre l'Arctique et l'Antarctique, c'est vraiment ce qui va différencier ces deux régions polaires. Et l'Antarctique, c'est vraiment la terre de tous les records et notamment de froid. Donc avec ces températures vraiment extrêmes au pôle sud. Et en été, eh bien, on ne s'imagine pas forcément aussi les températures qu'il peut faire le long du littoral. Donc même si on est près de l'océan Austral et que ça reste très froid, eh bien mon dernier voyage en Antarctique en 2020, là on a enregistré plus de 18 degrés. Donc c'est pas forcément aussi quelque chose qu'on s'imagine de pouvoir être en t-shirt en Antarctique quand il fait un grand soleil et pas de vent. Eh bien, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu qui m'a vraiment marqué. Même si globalement il faisait froid, il y a plein d'autres moments où je me suis gelé les mains, mais il y avait quand même ces journées un peu particulières où il faisait vraiment beau et on se disait mais où on est ? On est vraiment en Antarctique là. Et... Oui, malgré ces 18 degrés, on était là-bas.
De toute façon, on ne peut pas l'oublier parce qu'en fait, c'est un territoire qui est à peu près quoi, deux fois grand comme l'Europe, hein, et qui est couvert de glace de toute façon.
Donc il y a vraiment, pareil, une quantité de glace colossale. Sur le continent, il y a 4000 mètres d'épaisseur en moyenne. Enfin, ça va jusqu'à 5000 mètres même. Donc pareil, difficile à imaginer toute cette quantité de glace sur un continent qui est quand même très très grand. Et puis autour du continent, pendant l'hiver, il va y avoir une ceinture de banquise qui va se former autour du continent.
Ce qui fait que finalement l'Antarctique est un des rares continents à être deux fois plus grand en hiver qu'en été.
Oui, du coup ça va vraiment doubler sa surface, c'est ça.
Peut-être que je pourrais vous poser la question aussi de l'origine du nom Arctique et Antarctique.
Pareil, question que je ne m'étais pas posée avant d'y aller, et je découvre que l'Arctique et l'Antarctique, donc, ont été nommés à partir du grec arctos, qui veut dire ours, mais contrairement à la première idée qu'on peut avoir, on ne parle pas de l'ours polaire, on parle de la petite ours dans laquelle se trouve l'étoile polaire, qui indique le nord. Donc c'est comme ça qu'on a nommé l'Arctique, qui est donc au nord, et c'est aussi un moyen de se rappeler qu'il y a les ours polaires qui vivent au nord. Donc il n'y a pas d'ours en Antarctique, qui a été nommé du coup par opposition au sud.
Alors, puisque vous arrivez à parler des ours, qu'on a évoqué, je crois, les baleines comme étant à l'origine des premières explorations vers ce continent antarctique, justement, on va s'intéresser un petit peu à cette faune, à défaut de flore, parce qu'il n'y a pas beaucoup de flore hein, là-bas.
Non, il n'y a pas beaucoup de flore.
D'accord. Donc, la faune, alors, les baleines ont été donc le premier centre d'intérêt, et puis avec peut-être les conséquences qu'on sait, on a peut-être... était chassée à outrance, hein, cette baleine.
Concernant la faune en Antarctique, en effet, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui se sont adaptés à ces conditions-là. Et le peu d'espèces qui s'y sont adaptées, elles sont en très grand nombre. Donc, il y a beaucoup de baleines en Antarctique. C'est pour ça que nous, humains, on y a été pour aller la chasser et récupérer cette fameuse huile de baleine qu'on récoltait à partir de leur graisse. Et donc, on a vraiment fait un carnage en Antarctique. On a vidé l'océan Austral de ses cétacés. Et pendant des années et des années, on a tué toutes ces baleines en Géorgie du Sud, en Antarctique. Il y a vraiment des stations baleinières qui faisaient venir des hommes de nos pays pour aller chercher cette huile là-bas. Et on a vraiment fait un carnage jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus de baleines dans l'océan Austral. Et heureusement, on s'est quand même arrêté à temps. Bon, après, il y a eu l'arrivée du pétrole aussi. Et en 1986, il y a un moratoire international qui interdit la chasse à la baleine en Antarctique. Et donc, depuis, malgré le très peu de population qui restait, elles se sont quand même reproduites et elles reviennent en Antarctique, elles reviennent dans les lieux de massacre. Elles ont mis du temps à revenir sur certains endroits et aujourd'hui, c'est assez extraordinaire, il n'y a pas une journée en Antarctique où on ne voit pas de baleines à bosse. Donc c'est vrai qu'après, ça dépend des espèces, mais vraiment, les baleines à bosse, elles sont partout. On aperçoit, on revoit aussi des baleines bleues. On revoit d'autres espèces de baleines, mais en tout cas, elles sont là, elles sautent et on les voit vraiment tous les jours. C'est assez incroyable.
Voilà, et c'est vrai que vous disiez, effectivement, il y a eu un moratoire sur les baleines et aujourd'hui, il n'y a plus qu'au Japon, je crois, et en Norvège, où on consomme encore de la baleine parce que effectivement, là, c'est en Norvège, quelque part, c'est comme nous, le bœuf, hein.
Ça reste, oui, Japon et Norvège, ça reste vraiment les deux grands pays qui chassent encore la baleine. Tous les autres se sont arrêtés. L'Islande a mis fin aussi à ses quotas récemment. Donc le Japon, un moment, avait que des quotas pour la science, mais on se rendait compte que la frontière, comme dans d'autres domaines, des fois la frontière entre intérêts scientifiques ou commerciaux peuvent être un peu floues. Donc il est un peu sorti de cette hypocrisie et ils ont repris vraiment la chasse commerciale de la baleine. Donc oui, eux, ils chassent encore la baleine.
Bon, mais on sait qu'elles peuvent être tranquilles, donc a priori en Antarctique, donc ça c'est une bonne nouvelle. Sur la faune, il y a également des manchots, beaucoup de manchots.
Plein de manchots. Alors, pareil, j'ai découvert qu'il y avait plein d'espèces de manchots. Il y a vraiment l'image du manchot empereur qui est vraiment le roi en Antarctique et qui est vraiment très majestueux. Mais sinon, pendant l'été austral, donc il y a vraiment deux saisons en Antarctique, et les manchots empereurs, en fait, tous les manchots, c'est des oiseaux marins, donc ils vivent vraiment dans l'océan. Et leur seule raison de revenir à terre, c'est pour se reproduire. Et donc, le manchot empereur va revenir à terre en hiver. Donc, nous, touristes, scientifiques, on y est pour la plupart du temps en été austral, donc on ne va pas forcément voir ces manchots empereurs. Nous, on va surtout voir trois autres espèces de manchots, qui sont les manchots papous, les manchots adélie, les manchots à jugulaire. Ils sont beaucoup plus petits, là où le manchot empereur peut faire jusqu'à 1m20, 1m30. Les autres manchots, ils font moins d'un mètre et ils sont vraiment présents en très grand nombre en Antarctique. Et pendant trois mois, eh bien, en novembre, ils vont arriver, après ils vont s'accoupler, ils vont pondre, puis après c'est l'éclosion, on voit les poussins naître, on les voit grandir, on voit la mue. Donc il y a toute cette évolution quand même qu'on observe quand on passe trois mois d'affilée en Antarctique. Et puis après, une fois que la mue est terminée, ils vont, petits et grands, vont repartir dans l'océan austral et pareil, on va plus les revoir jusqu'à l'été d'après où ils vont revenir nicher.
En tout cas, on a l'impression que ces manchots, qu'ils soient empereurs ou autres, hein, ils sont comme des petits chats, en fait. On a l'impression, enfin, sur votre film, on les voit, ils se baladent tranquillement entre les humains.
Oui, bah, ils sont quand même dans leur environnement. Bah, nous, clairement, on vient les perturber.
Mais ça n'a pas l'air de les perturber, justement.
Justement, ça n'a pas l'air de les perturber. Donc, c'est vrai qu'il y a des études qui sont faites aussi sur l'impact du tourisme sur les colonies. Donc, il y a quand même les guides, il y a quand même pas mal de règles. Il y a des guides qui sont là pour respecter, pour le fait qu'on les dérange le moins possible. Et en effet, on n'a pas le droit de s'approcher. Donc, il y a quand même une certaine distance de sécurité pour les déranger le moins possible. Et c'est vrai qu'ils vivent leur vie et puis ils sont hyper drôles à observer, ils sont... Franchement, on passe des heures et des heures à les regarder, ils sont hyper drôles et voilà.
Mais c'est vrai qu'on le voit bien dans votre film Antarctique, hein, aux confins du monde. Y a un autre, on va peut-être accélérer un petit peu, y a un autre animal marin également qui est présent, le phoque.
Le phoque, tout à fait. Pareil, là avec plusieurs espèces de phoques que j'ai découvert là-bas. Et voilà.
Donc, ce sont les trois principales familles d'animaux.
Oui, c'est ça. Non, je disais oui, le peu d'animaux qui se sont adaptés en Antarctique, ça va être manchots, baleines et phoques principalement. Et après, il y a les oiseaux aussi qu'on oublie parfois, mais il y a aussi plusieurs oiseaux marins qui vivent en Antarctique également.
Bon, Solène Desbois, vous disiez, quand on vit là-bas, quand on reste là-bas 3 mois, etc., voici ce qu'on observe, etc. Vous, vous êtes resté combien de temps pour réaliser ce film Antarctique aux confins du monde ?
Alors, j'y suis allée une première fois en 2016 et après, j'y suis retournée. Donc, c'était 3 mois. La saison touristique, elle dure 3 mois. Donc, j'ai fait une saison complète de 3 mois. Après, j'y suis retournée 1 mois en 2018 et j'y suis retournée de nouveau 3 mois en 2019-2020. C'est là où vraiment j'ai réalisé le film. La dernière fois que j'y suis allée pour mon dernier voyage, vraiment, là, je me suis dit, j'y vais avec cette intention de faire un film pour le présenter après en conférence. Je me rendais compte en rentrant en France que quand je parlais de l'Antarctique, de l'Arctique, c'était pas forcément des régions qui étaient hyper connues, etc. Je partageais mon expérience, mais pour moi, il n'y a rien de tel qu'une vidéo et qu'un film pour vraiment parler de tout ça. Donc, mon dernier voyage, j'y suis allée en me disant, cette fois-ci, je fais vraiment des interviews, des guides qui sont à bord avec moi, des gens qui vivent sur les bases. Il y a une équipe de guides à bord, ils sont tous passionnés dans leur discipline. Il y a des glaciologues, des océanographes, des biologistes, des passionnés d'histoire polaire. Et après, tout au fil de la saison, on a l'occasion de rencontrer des scientifiques qui vivent sur les bases. Donc évidemment, les bases scientifiques, leur rôle premier, c'est pas d'accueillir des touristes, mais quand même, de temps en temps, elles ouvrent leurs portes si leur emploi du temps de recherche le permet. Et ça nous permet de visiter plusieurs bases de différentes nationalités. Il y a plein de nationalités en Antarctique. Et donc, à la fin de la saison, ça me donne un panel assez large avec plusieurs nationalités. Ça nous donne un aperçu, donc même si je restais pas des mois avec eux, même en une journée, on a quand même le temps de capter un peu ce qu'ils peuvent vivre. Et puis bah, après en interview, pareil, ça me permet de savoir comment ils vivent leur hivernage, comment ils appréhendent tout ça et qu'est-ce qu'ils font sur place. Et tout ça, je trouvais que c'est, on n'en parlait pas assez, et moi ça m'a appris plein de choses de les rencontrer.
C'est vrai que c'est fascinant, effectivement, toutes ces interviews que vous avez faites pour votre film, Solène. J'ai noté qu'il y avait 70 bases en Antarctique, qui appartiennent à peu près à une trentaine de pays différents, et au maximum, elles sont à 4000 personnes.
Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment 2 saisons en Antarctique, et ces saisons rythment aussi la vie scientifique.
Les saisons, pardon, elles durent combien de temps ? L'été dure combien de temps ?
C'est vraiment été austral et hiver. Donc, été, ça va être de novembre à mars. Et fin mars, on commence l'hiver austral. Et donc, de novembre à mars, il y a jusqu'à 4000 scientifiques en Antarctique, donc dispersés sur toutes ces bases. Et puis, fin mars, l'Antarctique se vide. Il n'en reste plus que 1000. Et donc, sachant que sur toutes ces bases, sur ces 70 bases, elles ne sont pas toutes ouvertes toute l'année. Parce que l'entretien et la logistique d'une base, c'est quand même très compliqué, ça coûte cher. Donc, elles ne sont pas toutes ouvertes toute l'année. Mais nous, nos 2 bases françaises, Dumont-d'Urville, sur le littoral Concordia, qui est au cœur de l'Antarctique, ces 2 bases qui sont ouvertes toute l'année. Et donc, il y a une poignée de scientifiques qui va rester quand même à ce moment-là. Donc là, on passe en mode hivernal avec un nombre très réduit de scientifiques qui va affronter cette nuit polaire pendant plusieurs mois.
Et c'est fascinant parce qu'on a l'impression que vous vous déplacez effectivement de base en base, comme si tout allait bien. Mais en fait, ce continent est quand même très étendu et les distances sont démultipliées parce que c'est compliqué de se déplacer là-bas. Et en fait, ce que vous disiez, c'est que les bases françaises, finalement, sont assez isolées. Elles sont un petit peu obligées de vivre en autarcie, justement du fait de l'éloignement.
Oui, c'est ça. L'Antarctique, en fait, c'est un énorme continent, mais la partie que nous, on visite en tant que touristes, ou la partie où il y a le plus de bases, c'est vraiment une portion infime. C'est ce qu'on appelle la péninsule antarctique. C'est une petite partie de la péninsule. C'est vraiment la partie la plus proche d'Ushuaïa. C'est la plus accessible, donc la plus facile d'accès logistiquement. Et à 1000 km d'Ushuaïa, sur cette péninsule, c'est là où on trouve le plus grand nombre de bases. Mais nous, Français, historiquement, on est attachés à la Terre Adélie depuis l'époque de Dumont-d'Urville, justement.
Du nom de son épouse ?
Tout à fait, Adèle, la Terre Adélie, tout à fait. Et qui a donné le nom au Manchot aussi, le Manchot Adélie. Et donc, nous, nos bases, elles sont de l'autre côté. Donc, l'isolement va être beaucoup plus total. À Dumont-d'Urville, il n'y a personne à 1000 km à la ronde. Et puis, à Concordia, c'est pareil. On est au cœur du continent. Il faut s'imaginer un désert et que du blanc, blanc, blanc à 360 degrés avec pas âme qui vive, ni animaux, ni rien. Donc, c'est vraiment, vraiment particulier.
Et alors, que font les Français là-bas ?
Alors, les Français, bah, comme tous les autres scientifiques, ils sont chacun à étudier leur domaine de recherche. Donc, évidemment, on trouve des glaciologues, on trouve des physiciens.
Il n'y a pas un petit peu des spécialités, en fait, en disant bah, les Français, tiens, ils font plus des recherches sur tel ou tel aspect?
Non, je crois pas. Ça, pour le coup, je pense que c'est chaque base a son activité. C'est que sur la base ukrainienne, on voit cette observation spéciale sur le trou dans la couche d'ozone. Donc, il va y avoir cette spécificité au niveau de la base ukrainienne. Après, on retrouve les mêmes disciplines aussi dans les différentes bases, avec cette coopération et ce partage aussi des données entre les différentes bases.
Oui, c'est ça qui est assez intéressant, et c'est ce que vous expliquez bien dans votre film, parce qu'on pourrait penser que les scientifiques gardent un petit peu leurs infos pour être les premiers à découvrir, ou parce qu'ils sont quand même financés par des labos qui pourraient vouloir l'exclusivité. En fait, là, on a l'impression qu'il y a vraiment une émulation très positive et avec un échange.
C'est vraiment ce que j'ai ressenti sur place quand je leur posais la question justement de ce partage de données. Donc, oui, sur la coopération internationale, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti sur place quand je posais la question aux scientifiques. On sent vraiment qu'ils sont investis de cette mission. Et cette mission, elle va au-delà des intérêts de leur base qui va être italienne ou française ou ukrainienne ou des laboratoires qu'il y a derrière. J'ai vraiment l'exemple de cette ukrainienne qui me disait qu'elle était en constant échange avec son homologue américain. Donc après, je saurais pas généraliser forcément cette information, mais en tout cas je trouve que en les interviewant on sent quand même qu'ils sont là pour la science et que l'intérêt c'est d'avancer et que le partage fait avancer la science, et ça fait partie aussi de l'histoire de l'Antarctique. Dans les années 50, là, il y a vraiment un essor d'une coopération internationale. Là, tous les pays, un grand nombre de pays se mettent d'accord ensemble pour mener des grandes missions, parce qu'encore une fois, tout ça, ça coûte cher. Donc, plus on est nombreux à financer ça, plus ça marche. Et c'est au final ce qui va aussi amener au traité de l'Antarctique, qui va protéger ce continent, en faire un territoire de science et de paix. Donc, la science et la coopération internationale fait partie de l'histoire de l'Antarctique, et d'une certaine manière, ce qui l'a aussi protéger d'intérêts ou de conflits entre les différentes nations.
Mais donc, je repose quand même ma question. Quels sont les objets des recherches? Est-ce que, effectivement, c'est d'étudier comment la glace s'est constituée ou d'autres questions auxquelles je ne penserais même pas?
Il y a eu plein de recherches. Donc, historiquement, il y a eu beaucoup de recherches faites sur le magnétisme, vraiment sur le fonctionnement de la Terre et du climat. Donc, même en météorologie, il y a eu beaucoup d'avancées faites en Antarctique. Aujourd'hui, il y a aussi une grande place à la glaciologie. Et avec les carottages, l'étude du climat, ça a quand même été l'endroit où on a découvert, grâce à l'analyse des petite bulle enfermée dans la glace qui avait une augmentation du CO2 sur Terre, sur la planète. Donc c'est quand même une grande découverte dont on parle tous les jours aujourd'hui. Donc il y a vraiment ce côté climat, glace. Il y a aussi le côté astronomie, observation du ciel avec un environnement propice en Antarctique. Et puis après, il va y avoir tout ce qui est biologie sur les animaux, et après toute l'océanographie. Là aussi, il y a une grosse coopération internationale sur les bateaux océanographiques qui vont étudier plus l'océan austral et les courants marins.
Vous disiez l'Antarctique, là, ça reste un espace assez préservé de paix et de préservation de l'environnement. Est-ce que on peut craindre que ça ne se gâte avec les années à venir? D'abord parce que le tourisme, malgré tout, se développe, et parce que plus on fait de recherches, plus on amène de matériel, sans doute, donc plus quelque part on pollue. Quel peut être l'avenir? Est-ce qu'il y a des hydrocarbures intéressants sous l'Antarctique? Je crois que oui.
Oui, on sait que l'Antarctique regorge de matières premières. Enfin, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a plein de minerais en Antarctique. Donc forcément, on peut craindre d'une exploitation future qui est aujourd'hui protégée et par le traité de l'Antarctique, par le protocole de Madrid. Donc il y a quand même cette réglementation aujourd'hui qui est là.
Un accord signé par tous les pays, hein, en principe.
C'est ça. Donc, c'est toujours compliqué de parler du futur de l'Antarctique, de voir comment tout ça va évoluer. On a envie des fois de rester positif en se disant bah, on a déjà réussi à créer ça. C'était quand même pas rien de se mettre tous autour de la table et de se dire on protège, on n'exploite pas l'Antarctique. Donc il faut espérer qu'on soit toujours les plus nombreux à penser ça et à mettre la protection de l'Antarctique au-dessus des intérêts économiques et énergétiques. Mais voilà, je peux pas prédire comment sera le monde en 2048. On parle de cette date 2048 parce que le fameux protocole de Madrid qui est entré en vigueur en 98, il a été instauré pour une durée de 50 ans. En 2048, il y aura des renégociations possibles. D'ici là, il peut se passer plein de choses.
Mais effectivement, Solène, on va rester sur ce côté positif en disant si les pays ont réussi une fois à se mettre d'accord et à préserver, eh ben, peut-être que ça peut se réitérer encore une fois suivante. Et sur le tourisme de masse, est-ce qu'il est à craindre vraiment en Antarctique ou est-ce que les conditions finalement vont réguler automatiquement, les conditions extrêmes vont réguler automatiquement ce tourisme de masse?
Alors moi, j'ai été témoin entre 2016 et 2020 déjà d'une grosse augmentation de l'activité touristique en Antarctique. 2016, il y avait 40 000 touristes, il y en avait 80 000 en 2020. Donc au niveau d'Ushuaïa, au niveau, on croisait beaucoup plus de bateaux en Antarctique. Donc j'ai vu cette expansion assez fulgurante. Plus à surveiller l'activité touristique globale, je voyais de plus en plus de compagnies à construire des bateaux d'expédition. Donc il y a vraiment un tourisme polaire qui est en pleine expansion. Pareil, c'est une question qui revient souvent d'interdire le tourisme en Antarctique. Je doute que ça se fasse. Encore une fois, il est quand même encadré ce tourisme-là, même si l'impact est là et que c'est pas anodin d'aller naviguer dans ces régions-là. Et après, on a l'impression aussi dans le film que c'est facile d'aller en Antarctique, que c'est facile d'aller débarquer, d'aller voir les petits manchots et tout. Mais non, l'Antarctique, ça reste quand même beaucoup de roches, de fronts glaciaires, etc. Donc au final, il y a très peu de sites qui sont accessibles aux touristes, où il y a une jolie plage, où on peut débarquer tranquillement.
Donc, et tant mieux, donc.
Et tant mieux. Et ce nombre de sites est limité et les compagnies de croisière s'arrangent pour réserver aussi ces sites parce qu'une des grandes règles du tourisme en Antarctique, c'est pas plus de 100 personnes à terre à la fois. Donc 100, c'est peu, c'est beaucoup à la fois, enfin selon, mais en tout cas, il y a cette règle-là qui existe. Donc je me dis, il y a peut-être aussi cette limitation-là qui va faire qu'on ne va pas pouvoir avoir 10 000 bateaux, mais en même temps, on découvre toujours d'autres sites. Il y a des compagnies qui font des croisières plus longues pour aller à d'autres endroits. Donc le tourisme évolue et voilà, on verra ce que ça donne. Mais oui, c'est vrai qu'il a quand même beaucoup, beaucoup augmenté. Et là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de réglementation qui interdit un jour de limiter vraiment les bateaux. On parle plutôt de surveillance et de mettre un peu des
régulations.
Ouais, quelqu'un à bord pour surveiller qu'on applique bien les règles, quoi.
Bon, enfin, en tout cas, je pense que comme c'est pas pour demain que nous irons, nous tous, en Antarctique.
Ça reste un tourisme de luxe, donc c'est vrai que ça aussi, on peut le déplorer. On n'a pas envie que tout le monde y aille, mais est-ce qu'on a envie qu'il y ait que les gens les plus aisés qui y aillent? C'est une autre question aussi qui se pose.
Voilà, effectivement, qu'on laissera en suspens. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que comme, voilà, je répète, a priori, on est nombreux à ne pas être prêts à aller visiter l'Antarctique et, ou même y avoir été. Ce film, Antarctique aux confins du monde, était une occasion d'y passer un petit moment. Et merci pour cette interview. Les DVD, les livres, on peut les trouver en allant sur votre site internet.
Oui, il y a mon site internet, solenedesbois.com. Vous pouvez voir le film en VOD. Ou sinon, vous pouvez me contacter si vous voulez vous le procurer. Et j'ai des livres, non, pas vraiment moi.
Ben merci beaucoup de ce voyage en Antarctique, Solène Desbois. Et puis donc, je vous rends à votre famille qui vous attend. Merci beaucoup, beaucoup.
Merci beaucoup.
C'était Voyage au bout du monde, une rencontre proposée par Isabelle Rupin.